On vous rappelle que ce soir, on a notre avant-match à nous. Marceau Le Soir qui reçoit Renaud Lavoie pour l'heure qui précède l'affrontement numéro 5 ou l'affrontement numéro 1, ça dépend comment vous voyez le reste de la série, entre le Canadien et les Sabres de Buffalo. J'ai vu quelques sections supplémentaires disparaître sur le plan du centre Vidéotron pour ce soir, donc les billets qui continuent d'être écoulés. Il en reste dans les 200 et les 300 pour le match de ce soir. On vous rappelle qu'on remet ça samedi, donc deux rendez-vous à l'Arena pour aller voir le match sur écran géant. Qui gagne ce soir? Comment vous le filez? Vous êtes rendu où? On va faire le point un peu plus tard avec le chum Max Larouche, qui vraisemblablement va être en direction et peut-être même arriver du côté du centre Vidéotron où iront le rejoindre les demoiselles de Gravel dans le retour.
En fait, on va pas rejoindre Max, on s'en va au centre Vidéotron.
Nuance quand même.
Ah, oh, vous allez toutes vous croiser, hein?
Il y a 15 000 personnes.
J'ai l'impression que le monde va se promener pas mal. J'ai l'impression que ça va être un événement pour faire du social. 418-971-1021 pour nous rejoindre. Il est 16h pile, Audrey, dans la circulation.
Si vous êtes sur la capitale, direction Est en ce moment, entre Henri IV et Laurentienne, c'est déjà très lourd. Direction Ouest, c'est entre Bourg-Royal et Laurentienne que ça se passe. Robert Bourassa, direction Nord, entre Charest et la capitale, toujours au ralenti. Si vous êtes sur Henri IV Sud, c'est quand même difficile en ce moment-là. À partir de la capitale, on sent le ralentissement jusqu'à l'entrée des ponts, ce qui est quand même rare, fait que c'est très, très lourd. Duplessis Sud, ça part de Charest jusqu'au pont La Porte. Un peu plus haut dans le Nord, devant la base militaire, à Shannon, route de la Bravo dans les deux directions, toujours au ralenti. Route de Fossambeau entre Désirable et de l'Agent-Cartier, ça bouge pas non plus. Puis si je m'en vais sur la rive sud, c'est la 20 direction ouest, où c'est le plus difficile, entre la route du président Kennedy et chemin des îles. Il y a un ralentissement dans les deux directions aussi, toujours sur la 20 en passant à la hauteur de Taniata. Guillaume Couture, entre la route du président Kennedy et chemin des îles, il y a un ralentissement à prévoir également de ce côté-là. Pour le reste, ça va, c'est au ralenti partout. Soyez prudents. S'il y a autre chose, 88-971-102 texto.
La meilleure chose qu'on peut faire dans une journée comme celle d'aujourd'hui, c'est de rêver à l'été. Et chez Club Jouet, ben, on vous équipe l'été à grand. Un été en famille. Vous avez besoin de quoi? Bac à sable, jeu d'adresse, des jouets pour la piscine, les accessoires pour apprendre à nager, les téléguidés et même les jeux pour animer vos soirées de camping. On a de tout chez Club Jouet. D'ailleurs, le nouveau catalogue estival est déjà disponible. Clubjouet.com ou encore aller chercher puis aller zioter. 1100 rue Bouvier. 250 $ de cartes cadeaux sont en jeu et c'est demain qu'on va faire notre grand gagnant, notre grand gagnante parmi tous ceux qui vont s'inscrire au blvd.fm section concours. Et aujourd'hui, ce que vous devez inscrire, c'est vélo d'équilibre. Vélo d'équilibre au blvd.fm section concours pour gagner 250 $ de cartes cadeaux. Bonne chance, on fait notre gagnant, notre gagnante demain dans le retour. Avant de passer à l'essentiel de l'actualité, je vais reprendre une phrase célèbre de Marc Labrèche et dire « Ben d'abord, des nouvelles de moi. » J'ai reçu un téléphone tantôt.
Puis, tu fais-tu de l'apnée du soleil?
Je fais de l'apnée du soleil.
Bon!
C'est maintenant officiel.
Une chose de régler.
Je dois prendre rendez-vous pour aller essayer des machines dans les prochains jours. Puis je vais faire partie des gens qui vont peut-être changer leur vie avec ça.
J'ai hâte de voir si on va le remarquer.
J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire. Je suis nerveux. Je suis vraiment nerveux. Je suis legit nerveux.
Les témoignages ont tellement dit que c'était le jour et la nuit quand ils commençaient à suivre leur traitement. Mm. J'ai hâte de voir.
Ça fait des années que j'ai besoin de dormir plus que n'importe qui d'autre. Ça va peut-être être enrageant aussi dans une certaine mesure.
Ça va peut-être te dire que tu aurais voulu faire un voyage dans le temps puis prendre cette décision-là.
Ouais, avant,
ouais.
Peut-être.
Mais on dirait que ça a été démocratisé plus récemment.
C'est
comme
vrai.
Si on avait pensé que l'apnée du sommeil, c'était rien que des vieux qui faisaient ça ou des gens qui n'étaient pas en santé. Puis que on dirait que notre crainte de vieillir aussi fait peut-être qu'on ne voulait pas porter attention.
Au-delà de ça, j'ai l'impression qu'il y a l'évolution de la machine.
Peut-être,
moi, j'entendais tellement dans les dernières années, mon Dieu, c'est envahissant, t'as de la misère à dormir avec ça. Est-ce que c'est écœurant quand t'as la conjointe à côté? C'est pas chic.
Tu dors à côté de Darth Vader.
L'Audrey, maintenant, elle aimerait ça.
C'est ça. C'est vraiment de plus en plus subtil.
Oui, j'ai compris qu'il y avait plusieurs modèles puis qu'il y en avait qui étaient pas mal moins invasifs que d'autres. Puis quand je dis invasif, je parle pas plus... je parle pas juste du dormeur, là, je parle de la personne à côté qui endure. Mais merci au collègue Chris qui était venu nous parler parce que lui en a une à la maison. Puis il fait partie des gens qui m'ont poussé fort puis qui ont fini par me convaincre.
C'est donc fait capoter. Il y a quelqu'un qui écrit « Ça fait un an et mes enfants m'en parlent encore de mon ancien mauvais caractère. »
Écoute.
Il dit « J'ai hâte comme auditeur.
» à voir s'il y aura des différences. Je peux vous dire une chose, par exemple. Depuis le début de l'année, je suis vraiment passé à un autre stade où là, je fais des nuits complètes de sommeil. Puis dès que j'ai une opportunité pour retourner me coucher, je refais une heure et demie, deux heures. Ma blonde est inquiète. Moi aussi, je suis inquiet. Fait que je suis content d'avoir un genre de diagnostic.
Hey, ceux qui en ont une machine, parce qu'on a un texto qui est rentré en disant « Compte-toi chanceux d'être déjà en couple, car imagine à une date, est-ce que je traîne mon CEPAP ou pas? » Tu sais, ceux, mettons, qui ont commencé à être traités en étant célibataires. Tu sais, c'est pas une maladie vénérienne, c'est pas un casier judiciaire, c'est juste une machine pour dormir.
Ça vous dérange-tu vraiment?
Mais je sais pas comment. Tu sais, si, mettons, mon amoureux m'avait annoncé « Ouais, on va dormir ensemble, mais j'ai une machine. »
Pas le premier soir.
Non, mais là, c'est non. Ça. Donne-toi un petit break, là, qui est à mal dormir.
Je sais pas comment ça marche.
Moi, je pense que tu y vas par étapes, là.
Moi, ça m'est arrivé, là, d'avoir quelqu'un dans ma vie le temps de 5 mois, puis la deuxième fois, cette machine-là est sortie, puis c'était le vieux modèle, là, où justement, c'était pas super chic, puis
fait plus de bruit, fait plus de bruit qu'un purificateur d'air, là.
Ouais, c'est ça. Mais en même temps, je veux dire, c'est la condition, c'est la condition. Je préfère-tu que tu portes ça ou que tu crèves, là, dans ton sommeil, je sais pas, là.
Ben, je pense qu'entre les deux, faut choisir le moindre, là. Puis ma blonde me rassure beaucoup, là, à déjà dormi avec quelqu'un qui avait une machine. Bon. Puis ça la stresse pas pantoute. Ça me stresse plus. Ça stresse plus le bonhomme que la bonne femme. 16h07.
Quelqu'un qui nous dit « Je suis célibataire » puis je confirme que certaines filles, ça fait peur. C'est parce que c'est pas bonne.
Ouais, c'est ça. C'est parce que là, il y a un problème. Là.
Puis en même temps, ben ça dépend si tu arrives avec ta machine le premier soir. Là. Comme je dis, il y a des niveaux, il y a des étapes. À un moment donné, moi, je dois dire à une fille que j'aime la lutte, au point de l'écouter à toutes les semaines. C'est un peu bizarre, c'est un peu particulier, mais à un moment donné, tu l'annonces. Moi, je pense que la machine arrive après ça.
J'aime ça, il dit « Watch-toi bien, si tu l'as pas le premier soir, tu vas tellement ronfler que l'autre va être content de savoir que t'as une machine les fois d'après. »
Ouais, peut-être. C'est une bonne façon peut-être d'aborder la machine le lendemain. Puis, t'as-tu bien dormi? Ouais, tu ronfles pas mal. Hey, justement!
Fallait que je te dise qu'il y a une solution.
C'est un problème que j'ai réglé, ça. On regarde l'essentiel de l'actualité. On est jeudi, on est le 14 mai.
C'est une journée où il y a plusieurs rapports qui ont été déposés, puis tous des rapports importants. Fait qu'il y a beaucoup de congestion en espérant qu'ils trouveront écho. Quoique celui-là. Le rapport qui a été déposé sur l'état du pont de Québec, parce que maintenant, il y a une société qui va être en charge là, de faire la réhabilitation du pont de Québec, c'est les ponts Jacques-Cartier et Champlain incorporés. Et eux ont dit qu'ils avaient fait leur rapport d'inspection. En fait, ils ont inspecté 56 % de la structure.
Juste 56 %
L'inspection. Si tu vois, j'ai le dentiste puis fait 56 % de mes dents, je vais être en maudit. Ouais.
J'espère avoir un rabais au moins.
Puis il se base là-dessus pour dire que tes dents sont belles.
T'as pas de caries.
Ouais, j'ai fait le tour de 56 % de tes dents, puis tes dents sont belles, t'as pas de caries.
Pas de déchaussement de gencives, tout va bien. Yes, 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 yes. Mais bon, on dit que dans les éléments d'importance, là, on considère que l'ouvrage est dans un état acceptable. On voulait aussi déterminer le poids du pont lui-même. Savez-vous combien il pèse?
Vas-y donc.
En tonnes métriques d'acier.
Aucune idée.
60 310 tonnes.
OK.
Ou encore, selon le texte de Radcan, 132,7 millions de livres. C'est quand même lourd. Donc, la société qui vise la fin de l'année 2027 pour dévoiler son plan de réhabilitation du pont qui va s'échelonner sur 25 ans. J'espère qu'il ne sera juste pas à recommencer par la suite. L'autre rapport qui a été déposé, c'est celui aux assises de l'Union des municipalités du Québec. On en a d'ailleurs jasé avec notre journaliste terrain Mathias Turcotte un peu plus tôt aujourd'hui. C'est des anciens ministres des Finances qui avaient été mandatés par l'UMQ pour faire ce rapport-là. Monique Jérôme Forget et Nicolas Marceau sur la détérioration des infrastructures municipales, mais aussi la pression financière sur les villes. En gros, le modèle financier des villes du Québec est plus soutenable. Fait qu'on est arrivé avec différentes solutions qui vont de faire son ménage, fusionner plus de municipalités ou augmenter des taxes puis que le gouvernement donne le même montant pour faire une espèce de pote d'infrastructure.
Ce qui permet un levier extraordinaire de communication aux maires et mairesses qui peuvent dire « Bien, c'est pas de ma faute si je monte les taxes, c'est de la faute du programme parce qu'on veut pas laisser d'argent sur la table. » D'ailleurs, ça a été, à peu de mots près, la réaction de Bruno Marchand.
La deuxième, si le gouvernement du Québec met un fonds, on laissera pas de l'argent sur la table. C'est pas vrai que je vais laisser de l'argent sur la table puis dire, ben nous autres, on le fera pas, puis nos infrastructures vont se détériorer. Vous posiez la question tantôt, ça représente combien? À peu près 1 %, parce que là, les chiffres peuvent varier un peu, mais juste pour se donner des approximations. 1 %, c'est 34 et 10 sur un compte moyen à Québec. 34 et 10, c'est vrai que c'est de l'argent de plus. C'est de l'argent qu'on doit aller chercher dans les poches des citoyens, puis c'est pas vrai que c'est si facile à trouver cet argent-là pour bien des familles. Parfait, on est d'accord.
C'est sur nos tables qu'il en restera plus.
Oui, puis je réitère ma proposition pour faire aussi un pote, que les villes fassent un ménage qui démontre à la hauteur de quel montant on a été capable de bien se gérer, et le gouvernement pourra donner le même montant pour faire le fameux pote. Je trouve qu'on avancerait dans une meilleure direction que juste rajouter de l'argent dans un trou noir.
C'est parce que c'est deux paliers qui ont le même ménage à faire.
Exactement.
Ils ne peuvent pas se donner des leçons bien.
C'est, parlant de ménage, les deux prochaines nouvelles. C'est Radio-Canada qui a appris que le réseau de transport de la capitale a mis fin à son contrat avec l'entreprise Siemens Mobilité Canada à l'été 2025. Eux autres, là, au printemps 2025, on annonce, hey, on a un contrat avec eux, on va se créer une application qui va permettre d'avoir au même endroit Copilote Plus, à vélo, RTC Nomade, Flexibus, puis on va lancer ça à l'automne. Finalement, c'est jamais arrivé, on n'a plus jamais réentendu parler, sauf qu'il y a des montants qui devront être déboursés. C'était un contrat qui devait atteindre 14,13 millions de dollars sur 5 ans qui était supposé être octroyé. Mais là, il y a déjà un 2,1 million qui a été déboursé à l'entreprise, puis il y a une autre somme qui sera versée comme pénalité et pour les heures travaillées de 1,9 million de dollars, donc un 4 millions de dollars que ça coûte dans le vide, parce que ce que Radcan nous dit, c'est que finalement, le RTC a préféré s'associer avec l'Autorité régionale de transport métropolitain, l'ARTM, pour son application Chrono, qui est disponible depuis 2017 dans la région de Montréal.
Ça ne tentait pas de penser à ça avant?
4 millions de dollars avant, pour être précis. Ça aurait bien fait.
Ça me fait capoter. On apprend aussi qu'il y aura un projet pilote permettant le paiement par carte de crédit et débit directement dans les autobus du RTC et de la Société de transport de Lévis à l'hiver 2027.
Arrivé dans le présent.
Parlant d'affaires qui existent depuis 10
ans
ailleurs.
C'est pas pire.
Ça rentre là-dedans. Fait que, tu sais, de l'argent qu'on aurait pu récupérer en faisant un bon ménage ou une meilleure gestion, peut-être qu'on en aurait eu là. L'autre rapport, parlant de ménage, c'est le rapport de l'Autorité des marchés publics. C'est un rapport qui avait été demandé par...
Un rapport par jour, ça aurait fait. Hein? C'est velu. Hein?
La semaine prochaine, à moins que je me trompe, là, je pense que c'est une relâche parlementaire.
Ouais.
Fait que j'ai l'impression qu'on voulait tout faire ça le jeudi, pour pas que ça tombe dans l'ombre du long week-end qui s'en vient, parce qu'on trouvait les contenus assez intéressants. Puis tu sais, ils ne se sont pas parlé entre eux autres en disant hey, « on fait tout ça aujourd'hui ». Mais je comprends la stratégie de communication de faire ça. Là. Le rapport qui avait été demandé par la présidente du Conseil du Trésor, c'était un mandat confié en 2025. Fait qu'on est dans l'espèce de raz-de-marée de Saclic. Et ça devait porter sur 11 dossiers informatiques réalisés sur une période de 15 ans. En gros, tout a été fait tout croche. Les objectifs, les besoins, les coûts qui ont été sous-évalués, les processus, la gestion de projet, la gouvernance, le manque d'encadrement... Tout y passe dans un rapport de 84 pages. On dit que ça ne peut pas être corrigé par des mesures ponctuelles ou isolées. En gros, ce qu'on demande, c'est vraiment un gigantesque ménage.
Ménage?
Oui, ménage. C'est la journée...
En gros, de façon générale et globale, il faudrait faire le ménage partout, puis on le fait pas.
C'est le printemps, là, c'est le temps, me semble.
Ben oui.
C'est 20 constats et 9 recommandations au gouvernement Fréchette qui ont été faits. La principale, il y a peu de surprises, puis qu'on a un peu commencé à le faire de ce que j'ai compris, c'est de repositionner la gouvernance centrale des projets numériques au sein du Conseil du Trésor, c'est eux autres qui ont les cordons de la bourse, et d'accentuer l'expertise du ministère de la cybersécurité et du numérique. Le numérique est rentré avec le Conseil du Trésor. D'ores et déjà, la présidente du Conseil du Trésor, Mme Duranceau, a dit qu'elle allait s'appuyer sur les recommandations pour mener la transformation numérique du Québec. En terminant, c'est le journal qui nous apprend que le permis du bar, le Phoenix du Parvis, est suspendu pour une durée de 7 jours et ils ont une sanction de 17 000 $ parce qu'il y a eu de nombreux manquements sur une période de 3 ans. En gros aussi, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a eu 73 événements qui ont nécessité une intervention des policiers pour le maintien de l'ordre dans l'établissement ou pour assister des ambulanciers. Fait qu'on parle d'actes de violence, de bagarres, de voies de fait impliquant des clients, de tentatives de s'en prendre à des agents de sécurité du désordre. Il y a eu trois mineurs à un certain moment donné aussi. Mais tu sais, au début, j'étais comme ça, pas de bon sens. Puis avec le recul, je me suis dit, c'est un endroit qui est ultra populaire, fait qu'il y a du monde genre quasiment 7 jours sur 7.
Ben, c'est un bord de flot actif, là.
Ben, puis regarde la société en général. Du monde qui sait pas vivre. on a vu la multiplication.
C'est pas surprenant. Là.
Fait que je pense que c'est peut-être juste le reflet de la société qui sait pas vivre, qui se transpose dans un lieu où on consomme de l'alcool, que peut-être qu'il y a de la drogue qui se gère aussi. Puis, t'sais, dans le journal, ils ont fait une entrevue avec l'entreprise en question en disant, tu sais, dans ces comportements-là, vous pouvez pas nous l'imputer à nous autres. On paye des agents de sécurité, parfois jusqu'à 14 pour être là pendant toute la soirée. C'est eux autres qui avaient sorti les premiers couverts à mettre sur les verres, là, les tops, là, pour éviter la drogue du viol. Je pense que comme business, il y a une limite à ce que tu peux faire ou ne pas faire pour gérer ta clientèle.
C'est du monde imbécile, ça reste du monde imbécile. Là,
c'est exactement ça. Puis tu sais, quand le bordel pogne en dedans, t'es sort dehors, puis les policiers vont débarquer, c'est sûr. Mais tu sais, qu'est-ce que tu veux faire pour empêcher ça dans une société qui sait plus vivre?
À part les mettre dehors, puis toi, assumer la sécurité de ton établissement, puis des gens qui sont à l'intérieur.
Tu sais, parce qu'au fur et à mesure que je lisais la nouvelle, c'est comme si mon opinion avait bougé à cause de ça.
Tu sais, à côté du Phoenix, t'as le parvis de l'église là, qui est là.
Oui. Le vrai parvis.
C'est un frigidaire populaire qui est là et pour laisser de la bouffe et tout ça. Ils sont pas capables de garder la porte. Ça veut dire que constamment, il y a du monde qui vont arracher la porte. Arracher la porte d'un frigidaire où on met de la bouffe pour du monde qui ont faim.
Dans le besoin.
Pense à ça 2 minutes, comment ça prend de la stupidité décomplexée. Je vois rien d'autre que ça. C'est tellement gratuit. C'est pire que gratuit, c'est faire mal à du monde qui en ont besoin. T'sais, c'est terrible. Bref, il est 4h15. Vous êtes à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour. C'est-tu en revenant qu'on parle avec Judith?
C'est à 16h30.
16h30, ouais. On va peut-être s'en rendre. On va avoir Judith Desmeules dans les prochaines minutes. On va aussi parler à Éric Sauvé un peu plus tard cet après-midi parce que Donald Trump est en Chine.
Oui, il est du côté de la Chine. C'est une rencontre importante. Il est là depuis hier. Puis c'est fou à quel point, quand il rencontre un dirigeant d'une grosse puissance, il agit pas pareil comme quand il rencontre, je sais pas moi, le premier ministre du Canada ou encore
fort,
le président de l'Ukraine.
Il semble triper fort sur les endroits où le boss a enlevé un petit peu de démocratie, là.
Puis où le décorum
est
faste.
C'est une tendance. On s'arrête. On revient. Vous êtes à Boulevard.
Gravel dans le colère. Gravel dans le retour. Entre spectacle et gros bon sens.
Ouais, ben on pourra pas avoir de l'actualité plus fraîche que ça dans les prochaines secondes parce qu'on va aller rejoindre Judith Desmeules en plein dans le palais de justice. Elle vient juste de sortir d'un dossier. Puis je sais qu'elle a bien des histoires à nous raconter. Mais d'abord, peut-être vous dire, bienvenue chez vous à Boulevard 102.1. Bienvenue chez nous dans le retour. Il est 16h23. Pour nous rejoindre par texto, c'est le 418-971-1021. Par téléphone, c'est le 418-780-1021. On est en plein cœur de l'heure de pointe, Audrey.
Il y a des problèmes si vous êtes sur la capitale, direction Est entre Henri IV et Laurentienne. Ils sont assez denses en plus, là. Il y a quelques troubles aussi si vous êtes sur la capitale, direction Ouest, entre Bourg-Royal et Laurentienne. Robert Bourassa, direction Nord, ça se passe entre Laurier et la capitale. Charest, direction Est, entre Duplessis et Henri IV, particulièrement difficile. Henri IV Sud, de la capitale au pont, c'est au ralenti. C'est un vrai foutoir, honnêtement, là, si vous êtes sur Henri IV en ce moment, direction Sud. Duplessis Sud, entre Charest et les ponts, difficile également. Dans le coin de Shannon, route de la Bravoure, direction Nord, surtout, là, quand vous vous dirigez vers Shannon, c'est assez lourd également. Route de Fossambeau, ça se passe entre Des Érables et de la Jacques-Cartier. Si on s'en va sur la rive sud, Guillaume Couture à la hauteur de Taniata dans les deux directions, c'est au ralenti. Entre la route du président Kennedy et Chemin des Îles aussi. Pour ce qui est de la 20, c'est direction ouest surtout, entre la route du président Kennedy et Taniata. Autre chose, 88-971-102 texto.
Elle est journaliste judiciaire pour Le Soleil. On s'en va la rejoindre justement au palais de justice. Judith Desmeules, bonjour.
Allô.
Comment ça va?
Ça va bien, vous autres?
Oui, beaucoup d'histoires dark encore à se partager aujourd'hui, puis peut-être commencer à l'envers de ce qu'on avait prévu au départ, parce que tu viens juste de sortir d'une cause, là.
Oui, l'audience s'est terminée, là, il y a à peine une demi-heure, en fait. Là.
C'est concernant la tentative de meurtre à Lévis, c'est bien ça?
Exact. C'est une tentative de meurtre qui est survenue en mai 2025, et là, l'homme vient de plaider coupable aujourd'hui puis a été condamné à 9 ans de prison.
C'est quoi son nom est connu, j'imagine?
Oui, c'est Frédéric Racine. En fait, il y a une ordonnance qui protège l'identité de la victime parce que tentative de meurtre s'est produite en contexte conjugal. Donc, c'est un homme qui a tenté d'assassiner sa conjointe parce qu'elle venait de parler d'une potentielle séparation. Et ça a créé une extrême colère et puis il y a eu une violente agression. Donc, il y a une ordonnance qui protège la victime, mais on peut quand même souligner là, le fait que c'était son conjoint pour bien raconter l'histoire.
Et de ce que je comprends, le juge, ou plutôt la juge, dans son discours, a fait mention des problèmes de drogue ou d'alcool de l'accusé, mais ça justifie rien, puis tu peux pas te servir de ça comme excuse.
Non, en effet. Puis la juge avait un fort message à la fin parce que, bon, selon la trame factuelle, Frédéric Racine avait des problèmes de consommation de drogue et d'alcool depuis plusieurs années. Il consommait beaucoup et c'est un petit peu ce qui aurait provoqué là, son extrême colère. Là, on parle d'une possible psychose toxique, mais ça n'a pas été retenu par le tribunal. Là, il n'a pas voulu faire défense là-dessus.
OK.
Et dans le fond, le message, c'est qu'à toutes les personnes, à tous les hommes qui sont prises avec ces problématiques-là, c'est de les régler avant d'en arriver là et de commettre ces gestes-là.
Même en plaidant coupable, quand tu te fais annoncer que tu t'en vas 9 ans dedans, ça a été quoi sa réaction?
Il semblait quand même avoir beaucoup de remords chez lui. Il a pleuré pendant l'audience, surtout quand la victime s'est adressée au tribunal.
OK.
Il s'est excusé à la fin. Là, je vous le dis souvent, là, quand un accusé part pour la prison, selon la loi, on est obligé de lui donner la parole. Donc, il peut s'exprimer une dernière fois devant le tribunal. Puis lui, il a tenu à le faire. Il a dit qu'il ne pouvait pas enlever ce qui s'était passé, mais qu'il était désolé.
Est-ce que dans ce temps-là, Judith, ça semble toucher les gens quand un accusé a l'air comme ça
d'être... Oui, ils n'ont pas de sympathie non plus dans leur sac.
Non, c'est ça, je me demande.
Ça dépend. Dans ce contexte-là, il a regardé la victime quand il s'est excusé et la victime n'a pas rendu son regard.
OK.
Elle n'a pas bronché, elle ne lui a pas fait de sourire, elle ne l'a pas regardé. Je pense qu'elle est restée de marbre, concentrée sur ce qu'elle avait à faire. Elle tenait à s'exprimer devant le tribunal pour, bon, parce qu'il faut qu'elle décrive les conséquences qu'elle vit depuis l'agression, parce qu'on parle de 8 coups de
Non,
couteau
non,
qui
c'est
ont été
ultra
donnés.
violent, hein? Ouf.
Elle a eu une opération à la gorge parce que ça l'a touché la veine là,
Oh.
bien importante
La jugulaire.
dans la jugulaire exactement. Et bon, elle a parlé des blessures physiques, mais c'est surtout les blessures psychologiques qui marquent. Aujourd'hui, elle a des caméras de surveillance chez elle parce qu'elle est en hypervigilance. Elle fait de l'insomnie. Elle est en thérapie. Elle a un choc post-traumatique. Donc, tout ça avec quoi elle doit composer aujourd'hui. Puis les derniers mots de sa déclaration, elle les a réservés pour toutes les victimes d'actes criminels. Puis elle a dit que vous n'êtes pas seul et que le chemin de la guérison, de la reconstruction est long, mais il est possible et lentement mais sûrement, on va passer au travers. C'est un peu ça qu'elle a dit. Puis ses cicatrices aujourd'hui, elle les voit comme des marques de survie, pas comme des marques qui lui ont presque enlevé la vie, là.
Judith, on va changer de dossier pour parler du cauchemar de bien des parents, Snapchat. À partir de quel âge on installe ça aux jeunes? Puis c'est un débat permanent, c'est source de conflits aussi. Mais tabarnouche, quand on se fait raconter des histoires comme tu vas nous raconter dans les prochaines minutes, on peut pas dire qu'on paranoïe les parents puis je pense qu'on fait juste preuve de prudence et de vigilance.
Puis là, c'est Snapchat, mais il y en a de plus en plus, là. Je veux dire, j'ai entendu, là, un peu plus tard que la semaine passée, des nouveaux réseaux, là, émergents que je ne connais pas et je ne suis pas si vieille que ça, là. Ça s'accumule, il y en a des nouveaux tout le temps. Fait que c'est tout le temps de rester à l'affût par rapport à ça, parce que dès qu'il y a une plateforme de clavardage, c'est exactement le piège parfait pour les agresseurs sexuels et les hommes qui veulent leurrer des enfants.
Et dans le cas présent, ben c'est un homme originaire du Mexique qui a leurré 2 filles de 12 ans.
C'est Marc-Andrés Hérault. Il entretenait une conversation avec l'une de ses victimes depuis plusieurs mois avant de la rencontrer. Ils se sont ajoutés sur Snapchat. C'est pas clair qui a ajouté qui. La jeune fille, elle avait 12 ans. Et lui, il en avait 25 à ce moment-là. Bon, il a prétendu être mineur au début, puis ils ont continué à se parler, ils se sont échangés des photos, ils ont convenu de se rencontrer. Donc, la jeune fille, lorsqu'elle est en visite chez ses grands-parents, elle dit « Ah, viens me chercher à la maison, moi je vais sortir ». Elle est allée dans le véhicule, les grands-parents l'ont vu partir et ont contacté la police à ce moment-ci, mais bon, il n'y avait rien à faire sur le champ, là. Et ils sont allés dans un rang voisin, puis Marc-André Serrault a profité de l'occasion pour l'agresser sexuellement sur la banquette arrière du véhicule.
Oh, mon Dieu.
Puis lorsqu'il est allé la reporter à la maison, là, ils ont tout de suite été portés plainte à la police. Puis il faut savoir que même si la fille de 12 ans pensait que c'était correct, qu'elle
avait son consentement, là, ouais.
L'âge de consentement au Canada est de 16 ans. Donc, peu importe ce qu'elle fait, elle n'est pas en âge de consentir à tout, ouais. Tout geste sexuel.
Judith. Ben,
c'est que finalement, souvent, ces gens-là, il n'y a pas juste une victime qui est faite. Donc, en arrêtant Marc-André Serrault pour ce crime-là, il y a eu analyse de son téléphone, puis on a trouvé qu'il y avait d'autres conversations avec d'autres jeunes filles de 12 ans. Les policiers ont été capables d'en identifier une et puis celle-ci a été rencontrée et il y a eu des échanges à caractère sexuel et des photos d'elle nue qui ont été envoyées là-dessus. Donc, il fait face à des accusations là, de leurre pour cette victime-là et de production de pornographie juvénile.
Est-ce que j'ai compris qu'il y a des chances qu'il retourne au Mexique?
Oui, il y a des peines minimales dans les crimes sexuels sur les mineurs et donc là, ça va être à savoir si l'avocat peut faire une demande pour pas avoir la peine minimale, mais là, ça va être une requête spéciale. Et donc, avant de plaider coupable, lorsque tu as un statut d'immigration, c'est toujours précisé que en plaidant coupable, vous savez et vous acceptez qu'il va avoir des conséquences sur le statut d'immigration. Ouais.
Judith, la troisième histoire qu'on va jaser ensemble, on en a fait mention hier dans nos bulletins de nouvelles. Quand on parle de quelqu'un qui est incorrigible sur une vingtaine d'années, c'est une personne qui a tué parce qu'il conduisait en état d'ébriété et il s'est retrouvé encore une fois dans une situation similaire avec en plus un enfant à bord.
Oui, c'est Sébastien Proulx. En 2005, il avait été condamné à 23 mois de prison parce qu'il avait conduit en état d'ébriété et avait tué sa fiancée, qui était passagère dans son véhicule. Donc, il a été condamné pour ça. Puis là, on se retrouve 20 ans plus tard. Puis il a été arrêté là, en avril 2024 parce qu'il roulait complètement ivre, puis avec son enfant à bord du véhicule. Puis c'est à noter parce que la juge, en rendant sa peine hier, elle a fait la mention, c'est que lui, il était au volant du véhicule, puis il s'est rendu dans un espèce de stationnement où il y a des garages loués.
Ouais.
Il a voulu entrer pour accéder à son garage, puis il avait de la misère à rentrer le code pour la barrière, puis on voyait bien qu'il roulait bizarrement. Et c'est les employés qui ont vu ça sur les caméras qui ont tout de suite contacté la police. Donc, il y avait aussi un avertissement par rapport à ça, de dès qu'on voit quelque chose, qu'on sent que ça va pas, ben il vaut mieux dénoncer que de se dire « Ah, oh, il est sûrement correct » ou « tu sais, je vais m'aller de mes affaires ». Donc, il y avait aussi ce message-là parce que peut-être qu'il n'aurait jamais été arrêté si ces témoins-là n'avaient pas communiqué avec la police. Ou pire encore, s'ils ne l'avaient pas fait, il y aurait pu avoir quelque chose de plus grave qui se serait produit au retour à la maison.
La peine, c'est quoi? Puis j'imagine qu'il y avait un facteur d'aggravement étant donné son sombre passé.
Oui, c'est un récidiviste. Puis à chaque fois qu'on condamne des accusés, il y a un rapport qui est fait par un agent de probation. Puis tout dépend du rapport, s'il est positif ou négatif. Celui de Sébastien Proulx était mitigé. Il y avait certains points positifs. Là, pour l'instant, il se dit abstinent. Donc, il a arrêté de consommer de l'alcool pour que ça réarrive et a des remords sincères. À l'inverse, il n'a pas entamé de suivi thérapeutique digne de mention, puis il semble avoir encore un désir de minimiser ses gestes. Et donc, c'était mitigé de ce côté-là. Vu que c'est un récidiviste, on est allé à 15 mois de prison. Puis ça, il faut noter qu'il n'y a pas eu de conséquences. Et nous, on voit l'enfant dans l'auto, fait que ça fait grincer des dents.
Ben
puis
oui.
C'est un facteur atténuant, c'est sûr, mais étant donné qu'il n'y a pas eu de conséquences là, qu'on peut quantifier, ben c'est dur là, d'aller plus haut. Puis, La poursuite avait proposé une peine de 24 mois, qui est très grosse dans le contexte. Puis on n'est pas allé là parce que la juge a dit qu'il avait déjà purgé une peine pour son crime plus grave commis en 2001 et qu'on ne pouvait pas punir un accusé un peu deux fois pour le même geste.
Il y avait eu une peine de combien de mois pour avoir tué quelqu'un en 2001?
C'est ça qui choque un peu parce qu'en 2005, il a été condamné à 23 mois. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, s'il faisait le même geste avec les peines qui ont augmenté puis le fléau de l'alcool au volant, c'est très peu probable qu'il aurait eu la même peine.
Okay.
En fait, de toutes les personnes qui ont été condamnées dans les dernières années depuis que je suis ici là, pour conduite avec les facultés affaiblies causant la mort, j'ai jamais rien vu en bas de 4 ans. Là.
Judith, même à distance, même avec des histoires lugubres, c'est toujours un plaisir.
Merci à vous.
Bye-bye, à la prochaine.
Bye.
Judith Demeul, journaliste judiciaire au Soleil en direct du Palais de justice. Je pense qu'elle était allée se cacher dans les petites salles là, où les clients consultent leurs avocats. Je pense avoir reconnu le décor en arrière. Des histoires
le
incroyables.
Le décor en arrière, le mur blanc
le
arrière,
mur blanc, les murs
avec
blancs,
les néons au plafond. Ouais. En fait, elle aurait pu être d'un cabinet de gynécologue aussi.
Chaleureux, là.
Je peux pas dire que ça me rappelle des bons souvenirs. Puis si vous autres, vous pensez à des cabinets de gynécologie, ça doit pas vous rappeler
non.
des bons souvenirs non plus.
Non, il y a des bureaux dentiste plus à
Cayenne. Il est 16h36. Vous êtes à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour.
Pour joindre l'équipe.
Cinq heures moins quart à Boulevard. C'est Gravel dans le retour. Pendant qu'on regarde le maire Marchand à la télévision, avec son plus beau jersey du Canadien de Montréal, c'est rendu que c'est récupéré à toutes les sauces, de toutes les façons. Je sais pas s'il est fucking fier des performances du Canadien. Faudrait lui demander.
Ouais, il parle dans deux semaines, hein?
Ah oui?
Ouais, le okay. 27.
OK. Crème, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer, hein? C'est...
Hey, moi, j'ai une très longue liste.
Ah oui, déjà?
Ah oui.
OK, good.
Il y a plusieurs des sujets qu'on n'a jamais abordés encore avec lui.
Ben tant mieux, parce que j'aime ça quand vous prenez de la place dans les entrevues, puis habituellement, vous êtes fâché, fait que
ça va. C'est pas vrai.
Avec le maire Marchand, plus vous prenez de la place, plus vous êtes fâché habituellement.
Pas déterminé, c'est pas pareil.
Ah, hein. OK, bon, d'accord. Si t'aimes mieux ce mot-là, on va prendre...
Plus, il disait qu'on était hystérique.
On va prendre ce mot-là. Non. Je dis pas que vous êtes hystérique. Je dis que, de façon générale, Bruno Marchand semble faire un effet aux femmes. Écoutons la première ministre, Christine Fréchette.
Et le maire de Québec, M. Bruno Marchand, que je croise très régulièrement et dont je ris de son humour, vraiment, quel humour fabuleux, M. Marchand.
Mon Dieu, hein. J'aimerais ça qu'on lui fasse entendre, Bruno Marchand.
Ouais. Oh, oui,
il était là quand il l'a entendu, cette balle.
Ouais, on va y faire entendre, pour on va lui dire qu'on constate une amélioration dans la
ses relations.
Ouais. Relations avec le provincial.
Ouais. Puis on va demander si Monique l'a entendu.
Oh, oui. C'est François Legault, j'ai jamais dit ça. Je le trouve drôle.
Ah, je le trouve, là, vraiment, vraiment comique, là. Il est drôle. Non, c'est peut-être bon signe pour Québec. On peut demander ce qu'on veut, peut-être, là. Parce qu'elle a l'air de...
En tout cas, j'espère que tu cours vite avec tes espadrilles parce que j'ai le goût de courir après toi.
Elle a vraiment ce rire, là.
Un petit peu, hein? Un petit peu.
Le rire pris au dépourvu.
Le rire de l'adolescente en pleine Beatlemania, là.
Et le maire de Québec, M. Bruno Marchand, que je croise très régulièrement et dont je ris de son humour, vraiment, quel humour fabuleux, M. Marchand.
Ça me rappelle quand Audrey nous disait qu'elle écoutait Star Wars, puis elle voulait pas nous dire avec qui. Puis là, tu demandais, mais avec qui? Puis elle faisait...
Joanie.
Non, avec une amie. C'était avec une amie.
Je me suis notée dans mes notes pour le maire, je veux qu'il nous raconte sa meilleure blague.
Mais c'est vrai,
ah ben oui,
il a tellement un bon humour.
T'as qu'à avoir de l'humour comme ça.
Parce qu'on l'a jamais trouvé vraiment drôle avec nous.
En tout cas, il y a au moins une personne qui l'a trouvé drôle, là, le vidéo du diable s'habille en Prada, clairement.
Peut-être que si je dis à l'attaché de Mme Fréchette que Bruno Marchand vient nous voir, elle va accepter de venir nous voir.
Ils pourraient se croiser.
Ah, peut-être, ben oui.
Peut-être quelque chose là. Là. On avait quand même eu la ministre Guilbeault à cause de Reg le matin. Là,
oui.
Où tu tires des ficelles.
C'est vrai que la ministre Guilbeault, elle avait un peu cette attitude-là avec Reg.
Oui. On l'avait croisé au Festival d'été de Québec, Max et moi, puis on lui en avait parlé, puis elle nous avait dit à quel point on était donc une gang tripante, surtout le matin. Là,
oui, oui.
Vraiment,
ben oui. C'est, je sais pas pourquoi ils t'ont mis la tête en dessous d'une planche, parce que...
En tout cas...
Ton sens de l'humour.
C'est-tu dur comme une planche, ces beaux pectoraux-là?
Oh.
Toc, toc, toc.
Parlons du retour au travail des fonctionnaires. Puis, c'est un bel exemple parce que, tu sais, souvent, on se fait dire, « Christy, vous autres, la radio, là, vous avez tellement des têtes de cochon. » Puis des fois, on essaye de s'ostiner avec vous autres puis vous voulez pas changer d'idée. Puis, ben moi, là, sur le retour au travail, là, vous avez été nombreux à m'écrire quand j'ai ri de vous autres, les fonctionnaires, là, parce que, « Hey, mon Dieu Seigneur, on vous demande d'aller travailler au bureau. Hein, quel sacrifice incroyable. » Mettons que la porte était ouverte, là, mais je dirais que l'accumulation d'explications tend à vous donner de plus en plus raison. On demande à des fonctionnaires de retourner au travail parce qu'ils sont en télétravail. Mais on les fait revenir au travail, un, dans un contexte particulier à Québec où dans les 7 prochaines années, on demande au monde de clairer les routes parce qu'il y a des travaux partout.
Qui okay? viennent vers la colline en plus.
Fait que si tu veux être un bon citoyen corporatif, si tu veux que le gouvernement soit un bon citoyen corporatif, tu aurais pu dire, ben continuez votre télétravail. Parce que faut tasser des voitures dans le trafic à Québec.
Ça va nous servir de toute manière.
Oui. Là, on demande au monde de venir au travail, mais on a coupé de l'espace. On n'a plus de place. Fait que tout le monde revient au travail, sont tous sous des tables à pique-nique, un en face de l'autre, puis il n'y a plus de bureau. Fait que tu peux pas laisser la photo avec tes enfants. Tu peux pas laisser la photo avec la bonne femme ou le bonhomme.
Ça, c'est tel que tel, mais quand tu te retrouves avec des réunions avec les membres de ton équipe, qu'eux autres sont à distance, mais que tu es à côté de quelqu'un d'autre qui est en réunion avec une autre gang, pas super.
Fait qu'on révise. Le gouvernement demande aux fonctionnaires de revenir au travail. Il y a du trafic. Il y a des travaux. Il y a déjà des problèmes. On a coupé 250 000 mètres carrés de parc immobilier. C'est l'équivalent de 4 fois le complexe G.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup de surface perdue.
Mais c'est une belle économie d'argent.
Mais les fonctionnaires reviennent au travail. Fait que là, ils arrivent, ils sont tous les uns ses autres, puis ils sont pas capables de travailler.
Mm-hmm.
Alors, c'est quoi la solution? Des retournants en télétravail? Non, 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 ça, c'est, non, il faudrait dépenser de l'argent. Avez-vous vu les 132 cabines insonorisées où on demande aux fonctionnaires d'aller faire leurs appels intimes et leurs appels où on a des informations qui sont confidentielles?
J'ai vu, puis c'est rare que je vais dire ça, mais il y a un post Facebook qui a été fait par le SPGQ, qui est le syndicat des professionnels du gouvernement. Là.
Oui.
C'est aquarium, congélateur, cabine de téléportation. Quel surnom donne-t-on à ces espaces dans vos milieux de travail? J'ai vraiment trouvé ça drôle.
T'as-tu déjà marché près d'une voiture F1?
Ben non. Là.
Moi, oui. Je suis déjà passé à côté d'une F1. Puis, j'ai pas besoin d'essayer de rentrer dedans pour savoir que je rentre
non,
pas
effectivement.
Dedans.
Oh, oui. Dans le cockpit. C'est
ouais.
Ici, cette affaire-là.
Je sais que je rentre pas là-dedans. Là. La cabine insonorisée, là, où est-ce qu'il faut aller faire des téléphones? Là.
Ben, en fait, tu rentres, mais il va falloir que tu te positionnes
squeezé,
pour plus bouger. Là.
À la prison, ils appellent ça le trou. OK? Mm-hmm. C'est 132 cabines insonorisées.
Ça ressemble à une douche 30 par 30.
Ça a coûté 1,6 million de dollars pour faire des... Je sais que la mode est aux mini-maisons, mais là, c'est des mini-bureaux.
C'est même okay. pas un bureau, Denis.
Ben non, c'est pas un bureau.
C'est une cabine téléphonique.
Il y a littéralement un pouf dedans. Là. Je veux dire, ouais. il y a un tabouret. Là.
Écoute, vos boss sont tellement ridicules que les fonctionnaires, ils sont en train de vous donner raison avec le télétravail. C'était vous autres qui aviez raison dès le départ. Faut dire que aussi, tu sais, dans toute la foire au malheur de ce retour au travail-là, il y a des fonctionnaires qui avaient accepté de s'installer en région. Hein? Parce qu'on avait fait la promotion de ça pour, justement, faire du télétravail, aller vous installer en région.
S'installer en région, oui, ou encore de faire du recrutement. C'est pas grave si vous n'êtes pas dans la ville
ben
où
oui.
le poste se retrouve.
C'est pas grave, vous ouvrez votre ordi.
Ben oui.
Ça va bien aller. Ben ces fonctionnaires-là, on leur demande de retourner travailler aussi, même s'ils ne sont jamais allés. Puis résultat, ben il y en a qui font 1h30 de route pour arriver d'un bureau où ils ne sont pas capables de travailler. C'est un peu cave. Moi, je suis pour le principe de se présenter au bureau quand t'as une job. Mais si le bureau, il est trop petit, puis qu'on n'est pas capable d'accueillir, puis qu'il y a des problèmes de trafic à cause des travaux...
Puis que t'es pas efficace.
Puis qu'on paye des millions de dollars pour avoir des cubicules pour développer l'agoraphobie puis la claustrophobie. Je sais pas, là. Ils sont en train de vous donner raison, fait que bravo. C'est où la place la plus petite où vous vous êtes senti le plus claustrophobe?
Et moi, moi, c'est... Tu sais, quand tu passes une machine par résonance magnétique, là, imagine...
Oh, t'en as passé une?
Ah, oh, j'ai voulu mourir.
Il y en a beaucoup qui font buzz là-dedans.
Moi, là, j'imaginais, tu sais, il y a un son de marteau.
Mm-hmm. Ouais.
Mon cerveau s'est mis à imaginer que c'était une alarme d'incendie dans l'hôpital, que tout le monde était en train d'évacuer puis que moi, j'étais restée poignée dedans.
Moi, tu vois, j'avais fermé les yeux. C'est long. Je les avais pas ouverts. J'étais comme pas capable.
Je pense que j'aurais fait comme toi. Ouais.
Il y a un petit miroir au plafond qui te permet de voir à l'extérieur de la machine. C'est pire.
Il y a des ascenseurs, des vieux ascenseurs qui sont ultra petits.
Je les prends pas.
Tu peux rentrer comme deux, trois dedans. Là.
Quand tu rentres, les portes tournantes, il y en a qui sont petites. Oui. Moi, je peux pas passer là.
Ceux-là qui... Je serais pas capable de faire ça, mais je sais que dans certains films, ils l'ont fait. Puis des fois, dans des vidéos YouTube que mes gars écoutent, je vois ça. Tu sais, ceux qui s'en vont dans les cavernes souterraines.
Puis dans les fonds de la plongée là-dedans.
Là, c'est tout petit. Puis là, il faut que tu te tortilles là-dedans comme un ver de terre. Mais là, tu es à 500 mètres de profondeur. Non,
ça, tu sens l'anxiété. Ah, ça n'a pas de génie. Regarder ces vidéos-là.
Ils te le disent, hein, on peut juste rentrer par là, mais pour sortir ailleurs. Non. On peut pas passer dans l'autre sens.
Il y a des militaires, il y a plusieurs années, qui nous avaient fait visiter Valcartier. Puis, ils nous avaient fait rentrer dans un tank.
Les petits blindés, là.
Les petits blindés.
Moi, j'ai pas rentré, là. Je peux pas.
Moi, je suis rentré. Ouais, t'as pas voulu rentrer.
Non.
Moi, je suis rentré, puis je peux te dire que je me sentais pas bien, là, parce que juste rentrer dedans, c'est compliqué. Mais eux autres sont trois là-dedans, là.
Ils sont tous collés les uns sur les autres.
Puis des fois, ça roule, puis là, c'est ça que les militaires qui étaient avec nous autres nous expliquaient. Tu sais, ils sont trois là-dedans, puis...
Tu sors pas faire tes besoins comme tu veux.
Non, parce que c'est miné dehors. La seule façon de te sauver le cul, ben c'est... Puis une fois de temps en temps, eux autres sont là-dedans, ils voient rien, ils entendent un boum. Bon, si qui vient de sauter, c'est celui en avant? C'est-tu nous autres le prochain? C'est-tu...
Ça doit être épouvantablement stressant.
Puis les gars, les filles se pissent dessus là, pour parler, pour se comprendre. Tu sais, t'arrêtes pas une course de F1 pour aller faire un petit pipi. Hein? Tu te laisses aller. Ça, Jacques Villeneuve l'a déjà raconté puis confirmé. Ben, je vous dis que d'un tank, là, où ce qui sont trois collés, là, pendant des chiffres de 24 heures, un moment donné, faut que tu lâches. Allô, la claustrophobie, là.
Une autre place, les toilettes d'avion.
Ah, oh, j'aime pas ça.
Ça, je suis pas capable.
C'est vrai que ça...
Toilettes d'avion, d'autobus, de tout ce que vous voulez.
Et moi, les toilettes, les bleues, là, les toilettes publiques, les sani, là, de Sani Patente Chouette, là.
Sani bleu, là.
J'ai de la misère à être là-dedans, mettons, dans une normale. Faut que je sois dans celle pour handicapés. Si tu vas me dire, c'est épouvantable, là, mais...
C'est vraiment épouvantable. Tu prends la place de quelqu'un qui en a vraiment besoin.
Bon, heureusement, je suis jamais tombée sur un handicapé en ouvrant la porte, là, mais...
Je pense pas que tes limitations en circulation soient un handicap qui est répertorié.
Non, mais tu sais...
C'est pas assez.
L'handicap mental, je trouve qu'on en parle pas assez.
Ah, oh, une autre qui se trouve une raison.
C'est sûr, une autre qui se diagnostique.
La visite du sous-marin au Bas-Saint-Laurent. Mm. On dit que ça aussi, c'est assez exigu et impressionnant. Ça doit être super hot. Je peux pas descendre là.
Non, moi, je suis pas capable. Être d'un sous-marin, là, la panique me poignerait tout de suite. Je pense que la station que vous écoutez présentement avait déjà tenté une expérience avec un animateur dont j'oublie le prénom, Cochon. Pas Vince Cochon, Luc. L'autre Cochon. Luc Cochon. Ça s'appelait pas Boulevard, mais c'était le 102.1. Et à un moment donné, il avait voulu faire ce qu'on appelle un stunt. Et le stunt, c'était de se faire enfermer dans un cercueil.
Oh Seigneur!
L'idée était de passer, je crois, 24 heures.
Voyons donc.
Ça a duré 20 secondes.
Ben non, mais là...
C'est une des affaires les plus drôles que vous pouvez retrouver. Je sais que ça existe encore à certains endroits. Il a paniqué tout de suite. Au point où son équipe, avec qui il était en communication, pensait qu'il faisait une joke. Mais il faisait pas une joke. Dès que la porte s'est fermée, c'est mis à faux buzzer. Fait que ça a été un stunt qui est passé de 24 heures à 19 secondes.
Mais non, mais là, des fois, tu peux... Hey, mon Dieu, tu te mets dans le trouble tout seul.
Ouais. Penses-tu que tu pourrais toffer plus longtemps?
Non.
Non? Mettons qu'on l'essaye, là. Non, mettons qu'on... On essaye de reprendre. Parce que c'est une portion d'histoire du 102.1. On pourrait essayer de se rendre au moins à 30 secondes, peut-être. Non,
c'est ça. Non, je tiens pas.
Tu veux pas l'essayer?
Non, c'est ça.
Quand je serai morte.
Tabarnouche, avoir eu stagiaire. Ben non, ils sont partis déjà. maudit, avoir eu cette idée-là la semaine passée. Il était tout petit, on aurait pu y rentrer deux dans la boîte.
Mais non, mais imagine. Ah non. Mais c'est parce que moi, j'ai peur des mauvaises blagues.
Des mauvaises blagues.
Mais non, mais tu sais, mettons, je sais pas, t'es quelqu'un le bord ou genre t'es...
Jette la clé.
Non.
Ou juste avant de fermer la boîte, je fais « Bonne chance! »
Ah, mon Dieu, ça, je suis en... Oh! Ouh! Ouh!
comme la pub avec la petite madame qui laisse un gaz passer.
Oui, exactement la même chose.
Ça m'est déjà arrivé sur un moment donné, mais pas dans un cercueil. Là,
un gaz passer?
Je suis allée dans le sud avec des amis. Puis j'ai un de mes amis qui, honnêtement, pourri de l'intérieur, visiblement, quand il évacue, là, c'est pas possible. Puis tu sais, dans le sud, là, il fait comme 35 degrés. Puis... on avait terminé la soirée dans notre chambre. Fait que, tu sais,
non, c'est le fun.
Je vois des jeux de société. Puis avant de quitter la chambre avec sa blonde...
Il t'en a pour rien.
Je pensais même pas que c'était possible. La longueur, la durée, la rondeur... L'as-tu vu? Véro, je l'ai goûté, ta barbe. Puis là, l'affaire, c'est que tu peux pas aérer. Il fait 40 degrés dehors, sacrément.
Il y a pas de courant d'air.
Il fait 40 degrés, il y a pas de courant d'air.
Ça part pas,
ça,
hein?
Non. Impossible de se cacher. Il y avait rien à faire. Je pense qu'on est sortis dehors pendant une demi-heure. On savait plus comment respirer. T'es épouvantable pour rire de l'intérieur de moi.
Un collègue qui m'avait fait ça en char, j'étais son lift.
Ben voyons.
J'aurais dû le laisser sur le bord de la rue.
C'était épouvantable.
Mourir en dedans, là.
C'est-tu ça, littéralement, un cadeau empoisonné?
Ça, oui, je pense que oui.
Hey, 16h58, on s'arrête pas longtemps, on revient. On va être un petit peu plus édifiant. On va parler de la visite de Trump en Chine avec son équipe d'étoiles.